Radio Campus Lille, il est 3 heures.
Radio Campus. Campus. La nuit.
On réécoute une émission magazine suivie d'une émission musicale à 4 heures.
Motivé, on va rester motivé. ces histoires de frontières ou ces grands découpages. J'ai voulu voir l'envers, j'ai pris un vol charter en classe train d'atterrissage. J'ai eu froid comme dans un désert par une nuit d'hiver sans sac de couchage. J'ai vu des grains de riz tellement grands, tellement gris. Les nuages. Puis le grand oiseau s'est posé tête la première. Je suis tombé par terre, mais arrivé à bon port dans un grand paysage, un décor tout en pierre. Il y avait plein de gens habillés bizarrement, de la tête aux pieds. Que des petits blancs sur ce nouveau continent, loin du Zimbabwe. Pourquoi Zimbabwe, oh mon pays, tu es si loin. Pourquoi Zimbabwe, oh mon pays, tu es si joli. Pourquoi Zimbabwe, oh mon pays, tu es si loin. Tu es si loin. T'es aussi Todi. T'es aussi Todi. J'ai vécu ainsi 10 ans sur ce nouveau continent, sans y voir de petits expédients, de boulot pas reluisant, de marché noir. Mais un jour un jour, un homme tout bleu m'a suivi des yeux toute la journée. M'a regardé gentiment, mais avec un œil méfiant, m'a dit: Est-ce que vous avez vos Est-ce que par hasard vous auriez vos? Je lui sors un mouchoir, il me dit non. Une note de comptoir, il me dit non. Une page de mon petit cahier noir, il me dit: Quoi? Tu veux dire que tapa. Je suis reparti au Zimbabwe, en jet privé. J'étais venu en classe train d'atterrissage, je repars en première classe. C'est la classe. Je suis reparti au Zimbabwe, je comprends pas pourquoi à mes poignets y a des drôles de bracelets. Ce qui fait que je comprends guère ces histoires de frontières, ces grands découpages. Je comprends pas avec quel crayon géant l'homme sépare les océans, comment il a fait pour tracer les grands traits sur le monde. Je comprends pas avec quel crayon géant l'homme sépare les océans, comment il a fait pour tracer les grands traits sur le monde. Je comprends pas avec quelle règle, avec quel cutter, avec quel équerre, comment il a fait pour tracer ses traits immondes. Je comprends pas avec quelle règle, avec quel cutter, avec quel équerre, comment il a fait pour tracer ses traits immondes. Mais est-ce que les oiseaux ont aussi leurs photos sur le petit papier? Quand ils migrent en Afrique, est-ce qu'on leur demande du fric? Est-ce qu'ils se font fouiller? Excusez-moi, mademoiselle Hirondelle, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Quoi, vous emmenez le printemps avec vous? Mais alors ça va être l'hiver ici. Bien, en admettant que vous ayez toutes les autorisations requises, mais tâchez de nous le ramener vers le 21 mars, ça nous est bien utile à l'époque. Et c'est pas la peine de revenir sans vos petites copines, on sait très bien qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Franchement. Est-ce que les oiseaux ont aussi leurs photos sur le petit papier? Quand ils migrent en Afrique, est-ce qu'on leur demande du fric? Est-ce qu'ils se font fouiller? Excusez-moi, monsieur le pélican, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Quoi, vous avez 8 kilos de poisson dans votre bec alors que votre petit papier ne vous autorise qu'à 6 kilos de bagages? Eh bien, vous allez me laisser ces 2 kilos de merlu en trop là sur le côté. On va se les partager avec les collègues. Franchement, est-ce que les oiseaux ont aussi leurs photos sur le petit papier? Quand ils migrent en Afrique, est-ce qu'on leur demande du fric? Est-ce qu'ils se font pouiller? Excusez-moi, madame la cigogne, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Non, vous n'avez rien du tout à déclarer. C'est quand même bizarre pour un oiseau migrateur qui revient d'Afrique du Nord. Non, vous êtes blanche comme neige. Vous êtes comme Blanche-Neige. Donc rien du tout à déclarer, madame la cigogne. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit baluchon? Franchement, est-ce que les oiseaux ont aussi leurs photos sur le petit papier? Quand ils migrent en Afrique, est-ce qu'on leur demande du fric? Est-ce qu'ils se font fouiller? Évidemment, je vous épargne le couplet sur le canard et le poulet venu avec la compagnie Avi Air. De toute façon, les canards, les poulets, c'est comme les nuages, ils vont rester à la frontière. Ce qui fait que je comprends guère ces histoires de frontières, ces grands découpages. Pour moi, la seule frontière, c'est celle de la... seule frontière, celle de la stratosphère. Pour moi la seule frontière, celle du système solaire. Pour moi la seule frontière réside à des années-lumière. Pour moi la seule frontière. Pour moi la seule frontière. Pour moi la seule frontière. C'est celle de l'univers.
Sans pantalon, sans oxygène. Change de sexe, tu trappes et ils vont maintenant, tu peux lui dire Irène. Chaque jour, un million d'enfants s'écrasent nus sur cette terre. Rampes se lèvent, font la chaîne, dansent en ligne jusqu'au cimetière. Mais sur le web, elle tape, je t'aime, qu'elle n'est pas gonflée au collagène. Qu'elle a horreur. OGM, que sa mère est végétarienne. L'écran répond My name is Ken, excuse my French, love you, je t'aime. W.com vient dans mon range, je t'écris tes poèmes. Et moi perdu dans la ville, égaré seul dans la file. Sainte-Catherine et pile, je rappe and read. Les superviseurs circulent entre les rangées. Je suis une vraie poule au milieu d'un poulailler. Arrive la soirée, ce besoin de se désaltérer. Arrive la soirée, ce besoin de se soulonner. À la librairie, dans la salle des employés, je compte les minutes qu'il me reste de liberté. Après le dîner, je devrais me consacrer à quelques heures de caisse, et cela contre mon gré. Arrive la soirée, ce besoin de se désaltérer. Arrive la soirée, ce besoin de se soulever. Je place des cannes de conserve. Les clients m'abordent, ils ne voient pas qu'ils m'énervent. Me font des demandes impertinentes sans raison.
réserve. Je demeure poli, il faut bien que je les serve. Vive la soirée, ce besoin de se désaltérer. J'en viens à envier le bonhomme carnaval. Un si beau métier, pas besoin de trop stresser. Chanter et danser avec de jolies duchesses. Animer la fête, la plus grande des richesses. Arrive la soirée, se désaltérer. Arrive la soirée, se paqueter. Arrive la soirée, arrive la soirée.
Découvrez les succès des années 60
le dimanche matin de 8h à 9h
en compagnie de Bruno, l'émission Passion 60 sur le 106,6 campuslille.com et sur le DAB+.
Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons.
Mangez-moi. C'est le champ des silos qui suffit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Il pleuvait beaucoup ce jour-là.
Heureusement, on avait des capuches
et surtout des pochons solides. Là-bas, les vaches nous regardaient d'un air complice et détendu. Il y avait plus qu'à s'y mettre pour assurer la cueillette.
Mangez-moi. C'est le chant du silo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Pas la bonne couleur, ne me décourage pas. Ouvrons les oreilles et écoutons.
Mangez-moi. C'est le chant du silo qui suffit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Radio Campus, la nuit.
Les rediffusions.
Comme un canard, mais c'est pour mieux. Et sûrement qu'ils ont tout raflé. Ce coin-là, c'est sûr, il est connu. Putain, franchement, comment veux-tu? Maintenant, il est trop tard. On est bien avancé, on a les pieds tout mouillés.
Mangez-moi.
Plutôt que de m'écraser, pourquoi ne pas me manger?
Mangez-moi, c'est le chant du silo qui suit.
voilà, mangez-moi, hey, 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 voilà, mangez-moi, hey, hey, voilà, mangez-moi, hey, 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 et des champs, des champs, des champs, des champs, des champs, des champignons, hey, hey, des champs, des champs, des champs, des champignons, voilà, mangez-moi, hey, voilà, maman, mangez-moi, oh, oh, voilà, mangez-moi, hey, voilà, mangez, mangez-moi avec bébé, 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 bébé,
san, si, it, ni, san, si, it, ni.
Il fait chaud, il fait froid, ouais, Cocorille, c'est il, Cocorille qui pue, qui gèle, Cocorille qui a du soleil, Cocorille, Cabanel, Cabanel, mon pourquoi pas d'elle, Bagatelle, juste prenant la fin de tunnel, à finir pêle-mêle, enfant de poubelle. Il y a des blessures. Il n'y a rien à voir. Bon, bah, il faut que j'y aille. Encore il, subtil. Que l'il qui vente les grêles. Encore il qui a du sommeil. Que l'il, pas elle, pas elle. Oh, pourquoi jamais pas elle. Bagatelle. Juste bonne à la fin du tunnel. À finir pêle-mêle. Enfant de poubelle.
Aujourd'hui comme hier, la guerre se gère comme une partie de poker. Jeu de rôle, jeu de risque, où l'on n'en prend aucun. Comme on lance un dé, on massacre par milliers sans penser qu'ils sont un.
Protégés de la honte et de l'indignation des nations,
par les actes barbares de fanatiques en action. Une poignée de dollars à la tête de l'OTAN pratique l'horreur à sa façon. Intervention. Sans blessure et sans bavure, nouveau concept, la guerre propre s'effectue avec des involtures. On en parle déjà dans les salons de coiffure. Comme on causé jadis teinture, voiture, température. Les atrocités des uns sont les exploits des autres. Et ce qu'étale les couvertures, c'est de l'info qui ressemble à sa caricature. La censure carbure et atteint une telle mesure qu'on oublie dans tout ça le sens du mot. Mais elle s'écrit pour chacun. Mensonge ou vérité, c'est notre lot commun.
Aujourd'hui comme hier, de poids et de mesure, les cris de nos voisins deviennent des murs.
Le monde éclate sans un regard sur ses fissures. Toujours les mêmes qui trinquent et les mêmes qui rassurent. Par crainte de nuisance, on force le silence. On endort les consciences, le meilleur des mondes. On endort les consciences, le meilleur des mondes. On endort les consciences, le meilleur des mondes. Comment ?
Ne dit-on pas que l'art est beau comme un bidet renversé ? Alors on se presse, on cherche les failles, on nettoie les camisoles, on les driving de l'audimat, et peu importe les plaisirs du moment, pourvu qu'il y ait l'ivresse. Aussi dans les vapeurs d'alcool désalcoolisé, on donne en concert les meilleures chances de guérir le monde. On y descend les canettes de luxe, en se prenant les épaules comme de vieux camarades de chambre. Et les chanteurs sont d'anciens militaires, à la voix de basse trop faible pour les chœurs. Ils ont été mis dehors, obligés de boiter à la SACEM pour nourrir leurs tigres et leurs oiseaux. On nous montre les culs quand on voudrait de la tendresse. On nous montre les flux quand on voudrait de la richesse. Le sang. Les sapins se grisent et la montagne attend son flot de phosphorescence. Alors imaginez. Alors, imaginez. Imaginez des cathédrales grouillant de moines en plastique, œuvrant sous l'œil du maître à la bonne marche des plateaux repas. Imaginez des théâtres d'ordures où l'on recyclerait les ordres en blagues de potage qui ne feraient rire que les nerfs. Imaginez des savants si sûrs de leur savoir que peuvent l'être au combat quelques révolutionnaires. Rêvez New York, et vous n'en aurez que la moitié. Le cauchemar en plus.
Radio Campus, il est 18h30.
Radio Campus, 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qui est, putain de merde?
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve.
C'est pire que la guerre!
Non, mais dès que je jette un coup d'œil à la flèche, je suis métier.
Moi, je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
C'est ça, réfugiez-vous dans le détail.
Avouez, cher monsieur, la mésaventure qui va suivre vous est déjà arrivée.
Cette crise est en fait au départ un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B. Allez, top!
C'est dans des kilomètres.
Vous n'avez pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend, mais qu'on ne parle pas. Puis on dit non, on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes,
puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
Ouais, la révolution, par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu salis le tapis avec ton sang.
C'est pour vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer à des...
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sans mes foutus, pas grand-chose.
Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est ceux-là ?
C'est dans le mètre.
Là, dans le mètre.
Vous allez le mettre où, ça ?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis, un petit peu de rouge. Et puis,
c'est encore le même conseil social et la chanson c'est la même.
Il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs et puis à la fin du compte on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais je vais forcément toucher, je vais tomber en panne de poste. Mais tant que vous ne pouvez pas toucher. Mais il y a quand même curieux. Sans quoi, j'ai dit, jamais.
Aujourd'hui, mercredi 11 juin, c'est la sainte Rima Hassan. Hassan avec un ha 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 ha, comme dans ha ha Hamas. Ah ben, il n'y a pas de ha, ha, hasard. Hein. Sainte Rima Hassan est donc bien la sainte patronne des apologistes du ha 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 ha, du ha 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 ha, du droit international, quoi. Quel culot! Mais quel culot! Déjà, Sainte Rima Hassan est palestinienne et réfugiée. Autant dire que pour les racistes de Tel Aviv, elle ne devrait même pas exister, si ce n'est sous la forme poétique exprimée par le porte-parole du Likoud en France de « petite pute antisémite ». Venant d'un gros port fasciste, cette caractérisation de Rima est un compliment à toute l'humanité. Quel culot! Eh oui, parce que par extension, Sainte Rima Hassan est donc également une Française de papier. Ah ben oui, ça se voit, hein. Comme le dirait le nain fasciste Zemmour, une Française de papier arabo-musulmane, c'est-à-dire, pour les adeptes du battleur fasciste Pascal Praud, une sous-humaine, une menace pour son identité à lui, une grande remplaçante incompatible avec la République de Attayo. Quel incroyable culot! Sainte Rima Hassan est également une élue de la France insoumise, à savoir une adepte du gourou islamo-gauchiste antisémite. Il n'est donc pas étonnant de l'entendre aboyer des insanités, comme par exemple halte au génocide, ou encore, c'est un extrémisme impardonnable, respect du droit international. Oh non, mais ça fait froid dans le dos, là, hein. Mais quel culot! Quel culot! Sainte Rima Hassan, en plus, est une femme. Ce qui fait dire au bof de CNews et des autres bistrots du même tonneau qu'elle traverse la Méditerranée pour parfaire son bronzage et faire la une de la presse people. En effet, une gonzesse peut-elle agir autrement qu'en vue de charmer par ses artifices ? C'est du buzz ! C'est du buzz, comme on dit dans les rangs des militants sérieux qui respectent les règlements des assemblées et qui construisent la gauche responsable dont la France a besoin. Et le sionisme aussi. C'est ainsi que, quel culot, l'apatride, l'enfant de la Nakba, la militante qui ne craint ni le Mossad ni la mort promise, la femme courage, survolant un océan de petites lâchetés, a été canonisée en ricanant lorsque la bave des crapauds tenta de briser ses ailes. Eh, faire demi-tour ? Et quoi encore ? Aujourd'hui, mercredi 11 juin 2025, le soleil s'est levé. Sur le quai, les cales gorgées d'amour et de chants de paix. Il va se coucher. Il va falloir tout débarquer et ça sera long, ça sera lourd, tu sais. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus et sur campusmille.com. Ce soir, nous vous proposons le cinquième volet de, organisé par le Café Marxiste avec Antoine Paton autour de Marx et du Capital. C'est vraiment passionnant. Mais tout de suite, ou presque, avant en tout cas, eh bien, la rubrique de Saïd Bouamama, Le Monde vu d'en bas, où il s'interroge sur les liens entre Trump et les Afrikaners d'Afrique du Sud. L'apartheid, ça vous rappelle quelque chose? C'est d'actualité, c'est l'heure de le mettre.
J'en connais qui tournent en rond ou qui longent les murs en comptant les saisons. J'en ai vu des dépourvus, des nouveaux départs qui ne mènent nulle part. Des guerriers à la télé, des héros dans ma salle à manger. J'en ai lu des histoires vraies, mais la question que je me pose, sans cesse, où je pourrais trouver du courage. De soi, que l'on porte au bout des doigts de la force et l'espoir d'aller chercher plus loin en n'ayant peur de rien, de sonner à la porte de l'inconnu sans aucune retenue. En parler, c'est si léger, mais la question que je me pose, sans cesse, où je pourrais trouver du courage. Comme le petit poussé des cailloux, j'en ai trouvé. Mais la question que je me pose, sans cesse, où je pourrais trouver du courage.
Radio Campus, la nuit.
Les rediffusions.
Radio Campus.
Notre spécialité, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion.
106,6.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée aux accusations farfelues proférées par Donald Trump contre l'Afrique du Sud et à leurs objectifs politiques. Lors d'une rencontre entre le président sud-africain Cyril Ramaphosa et Donald Trump le 21 mai, le président états-unien a accusé l'Afrique du Sud de commettre un véritable génocide contre les fermiers blancs. Devant la presse, il présente des vidéos censées prouver l'existence de ce génocide. Quelques mois auparavant, le 7 février, il signait un décret pour faciliter l'asile des réfugiés afrikaners fuyant ce pseudo-génocide. Lors de l'accueil d'un premier groupe de 49 pseudo-réfugiés le 12 mai, Trump déclare lors d'une conférence de presse, je cite, « C'est un génocide dont vous ne voulez pas parler, mais il se passe quelque chose de terrible. Des agriculteurs sont tués et les journaux, les médias et la télévision n'en parlent même pas. Si c'est l'inverse, ils en parlent. C'est même la seule chose dont ils parlent. Je me fous de savoir qui ils sont. Je sais juste que des gens en Afrique du Sud me disent que ce qui se passe est terrible. Nous avons donc donné la citoyenneté à ces personnes pour échapper à cette violence et venir ici. » Fin de citation. L'accusation de génocide blanc a débuté début février 2025, juste après l'adoption, le 23 janvier par l'Afrique du Sud, d'une nouvelle loi agraire visant, je cite, à exproprier des terres dans l'intérêt public pour diverses raisons, visant entre autres à promouvoir l'inclusivité et l'accès aux ressources naturelles. Fin de citation. Pour comprendre l'importance de cette loi, qui a beaucoup trop tardé, il convient de rappeler quelques données que Donald Trump se garde bien de rappeler. Ainsi, seulement 4% des terres cultivables appartiennent à des Sud-Africains noirs, alors que ceux-ci représentent 81% de la population. À l'inverse, les 36 000 fermiers blancs, qui ne représentent que 7% de la population, possèdent 72% des terres. On comprend dès lors l'urgence d'une redistribution des terres qui n'a que trop tardé depuis la fin de l'apartheid. Occultant ce contexte, Elon Musk déclarait en réaction à la nouvelle loi agraire, je cite, « Pourquoi vos lois sur la propriété sont-elles ouvertement racistes ? Les Sud-Africains blancs sont persécutés en raison de leur race dans leur propre pays. » Fin de citation. En outre, la nouvelle loi agraire n'affiche que des objectifs très modestes et bien inférieurs à une logique égalitaire. Elle ne vise principalement que des terres abandonnées ou en friche et prévoit une indemnisation au prix du marché. Comme on le constate, nous sommes loin de l'objectif de Mandela lors de son accession au pouvoir en 1994, prévoyant la restitution de 30% des terres sud-africaines à leurs anciens propriétaires avant 2014. Ces terres, aujourd'hui propriétés de fermiers blancs, sont en effet le résultat d'une expropriation légale des petits propriétaires noirs. Une loi sur les terres de 1913 interdisait en effet aux noirs d'acheter ou de louer des terres dans les zones dites blanches. L'effet immédiat fut l'expulsion forcée et violente des petits propriétaires noirs. La nouvelle loi, jugée génocidaire par Trump, ne fait que reprendre cet objectif de 30% des terres pour l'horizon 2030. Si l'apartheid a effectivement été aboli en 1994, ses effets structurels en termes d'inégalité économique sont encore bien présents sur le plan de la répartition des richesses et de la propriété. La rhétorique de Donald Trump est connue. Elle est un des outils classiques de tous les processus de domination. Elle consiste, pour le dominant, à retourner l'accusation qui lui est faite et à accuser à son tour le dominé de la même infamie. Elle a été utilisée dans le passé contre les militants et mouvements anti-esclavagistes, anti-coloniaux, anti-racistes, anti-capitalistes, etc. Frantz Fanon, Lumumba, Mandela et des dizaines d'autres combattants de l'égalité ont été dans le passé accusés d'être des racistes anti-blancs. Aujourd'hui, c'est le pays qui a saisi la justice internationale pour enfin caractériser justement le génocide sioniste à Gaza, qui est à son tour accusé de génocide. L'action juridique de l'Afrique du Sud contre les génocides sionistes a produit des effets importants, même si l'état actuel du rapport de force mondial, en particulier au sein des institutions internationales, ne permet pas que la plainte sud-africaine ne débouche sur le moindre résultat. Les effets se situent ailleurs. Ils consistent en la libération de la parole, en la disparition d'un tabou, en l'éclatement du carcan idéologique de la propagande sioniste, empêchant jusqu'alors de désigner le sionisme pour ce qu'il est, un régime génocidaire. La plainte de l'Afrique du Sud signe de fait une défaite morale du sionisme pour la première fois depuis 1948. Or, faut-il encore le rappeler, toutes les guerres de libération nationale ont été victorieuses qu'après une défaite morale de l'oppresseur. C'est sur cette défaite morale que tente de revenir Trump par des accusations farfelues. Comme d'habitude, il accompagne ces accusations ubuesques de pression et de sanctions. Sur le plan des sanctions, il suspend totalement l'aide états-unienne à l'Afrique du Sud, qui s'évaluait à 440 millions de dollars en 2023, essentiellement fléchée vers le secteur de la santé et plus particulièrement en direction des personnes victimes du sida. Sur les plans des menaces, il expulse en mars dernier l'ambassadeur sud-africain en ne lui laissant que 72 heures pour quitter les États-Unis et en l'accusant, je cite, d'être un homme politique raciste qui déteste l'Amérique. Fin de citation. L'objectif de l'ensemble de cette campagne est de contraindre l'Afrique du Sud à faire profil bas sur le plan international. Que ce soit au niveau des équilibres mondiaux avec son implication totale dans la dynamique multipolaire des BRICS, sur le plan africain avec son refus des ingérences étrangères et son appel à un règlement africain des problèmes africains, africain, ou son soutien à la lutte du peuple sahraoui, sur la question palestinienne et sa dénonciation exemplaire du génocide sioniste, l'Afrique du Sud est sur tous ses fronts diamétralement opposée à l'hégémonisme états-unien. Enfin, n'oublions pas que la Chine est considérée par Washington comme un danger stratégique à contenir et à affaiblir, et celle-ci est le premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud. Selon les données publiées par le South African Revenue Service, la Chine représentait 11,6% des exportations sud-africaines et 23,1% des importations en avril 2024. De même que le discours sur la paix en Ukraine de Donald Trump portait en objectif caché l'espoir de distendre l'alliance entre la Chine et la Russie, les accusations et sanctions contre l'Afrique du Sud sont sous-tendues par un objectif d'éloigner l'Afrique du Sud de la dynamique des BRICS et plus largement de distendre ses liens avec Pékin. Loin d'être un individu rationnel, comme le présentent de nombreux médias, Donald Trump poursuit, on le voit, une stratégie cohérente de défense par tous les moyens possibles des intérêts de l'hégémonisme états-unien.
Napoli.
So giamaicana, africana, sonata milana,
il principale prodotto d'esportazione italiana.
So giamaicana, africana, sonata milana,
so napolitana.
So giamaicana, africana, sonata milana,
il più diffuso prodotto d'esportazione italiana.
So giamaicana, africana, sonata milana.
Radio Campus.
J'ai compris. Vous pouvez compter sur moi, j'ai compris.
Ouais.
Comment ça, j'ai pas compris? Ah oui, c'est ça. Ah oui, j'avais pas compris.
106,6.
Bonjour à tous. Alors, on retrouve Antoine Vatan, notre économiste en chef.
Chief économiste.
Pour ce dernier épisode de notre série sur le capital de Marx. Et aujourd'hui, donc, on va s'intéresser aux autres théories économiques. et notamment donc aux penseurs classiques, néoclassiques et aux keynésiens.
Oui.
Donc première question, qu'est-ce qui caractérise les penseurs classiques? Donc on avait parlé de Smith, Ricardo, mais il y a aussi Malthus, Say ou Mill. Et quelle différence avec Marx?
Bien. Il a faut des points communs et des différences. Je ne vais pas dire que c'est la dissertation tarte à la crème de licence. Marx est-il le dernier des classiques? Mais presque. Il y a à la fois des côtés progressistes qu'il faut retenir, puis des côtés franchement réactionnaires chez les penseurs classiques. Le côté, j'allais dire, progressiste, ou en tout cas qui ferait héritage, et qui maintenant s'est diffusé, c'est que dans l'explication que les hommes ont d'eux-mêmes, j'allais dire dans l'anthropologie au sens large, c'est-à-dire l'homme qui s'étudie lui-même, c'est-à-dire pas l'homme qui étudie la nature, mais l'homme qui s'étudie lui-même, ben, ils vont quand même mettre au centre les rapports économiques. Ce qui est globalement inédit. Hein, d'ailleurs, toute histoire de la pensée économique commence. Alors, il y a vaguement la crématistique, quoi. Mais après, bon, on enjambe le Moyen Âge et puis on arrive tout de suite aux penseurs classiques, en commençant par notamment souvent la fable des abeilles. Mais bon, ça, quand même, c'est quand même à mettre à leur crédit. C'est-à-dire que c'est un côté révolutionnaire, encore une fois, qui accompagne la bourgeoisie, hein, parce que la bourgeoisie prend le pouvoir économique. Donc, à un moment donné, elle doit aussi justifier le fait qu'elle fasse la révolution. Et ils mettent les rapports économiques au centre, j'allais dire, de l'analyse des sociétés. Donc évidemment, ça, Marx reprendra ça. La dernière fois, j'ai dit, Marx ne les nie pas directement, il les développe, il pousse jusqu'au bout, il pousse les curseurs. Alors souvent, ça peut être mal compris, dans le sens où, en fait, ils n'ont pas été très loin dans l'analyse, et puis, en fait, Marx a juste complété la théorie. En fait, non, parce que en poussant les curseurs jusqu'au bout, en fait, il va montrer les contradictions de cette pensée et il va finir par les dépasser en les niant finalement. Ok, donc ça, mais c'est pas comme un gauchiste qui viendrait en disant le capitalisme c'est pas bien, il faut penser un autre mode de production. Donc j'écris dans ma chambre d'ado un mode de production alternatif, ce qui existe aussi dans la pensée économique, hein, y compris d'ailleurs à cette époque-là, bien avant Marx, il y a des penseurs du socialisme utopique, comme on l'appellera après. Et d'ailleurs, souvent, en tant que marxiste, on critique ça maintenant au XXIe siècle, mais quand on lit Engels, il est assez laudateur hein, des socialistes utopiques, notamment parce qu'il arrive à extraire, j'allais dire en fait, presque fortuitement, une analyse du capitalisme chez certains auteurs. Bon, passons, c'est pas le sujet. Mais disons que donc Marx va reprendre prima facie certains aspects de cette analyse, mais pour les développer et finir par les nier. Donc par exemple, chez les penseurs classiques, il y a une théorie de la valeur travail, mais substantialiste. C'est-à-dire que c'est, pour le coup, la valeur de ce stylo, c'est la quantité de travail incluse dans ce stylo. Et donc, si on prend cet exemple et qu'on veut y aller à gros traits, Marx va dire deux choses qui ne font pas que compléter, mais qui, encore une fois, dépassent et nient. Premièrement, il va dire, attention, c'est pas la substance travail qu'il y a dedans, c'est le travail abstrait, comme on l'a défini la dernière fois. C'est-à-dire que c'est pas le travail tout court. Parce que du travail tout court, il y en a depuis que l'homme est homme. Hein. Je veux dire, rame, chasseur-cueilleur, c'est du travail. L'esclavagisme, c'est du travail, n'est-ce pas? Mais c'est pas le travail abstrait au sens de la production capitaliste. Donc déjà, Marx va préciser ça. Mais ce faisant, en fait, il nie la pensée classique, puisque dès l'instant que je dis c'est la quantité de travail tout court qui compte, alors je suis en train de dire bah finalement il n'y a pas tellement d'histoire. Puisque si c'est le travail tout court, du travail tout court il y en a toujours eu. Et donc finalement je deviens réactionnaire quand je dis ça, parce que c'est curieux d'ailleurs, c'est au moment où je prends le pouvoir en tant que bourgeoisie que j'arrête l'histoire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que là, c'est ça la valeur travail. Donc la valeur travail, en fait, elle a toujours existé, en fait, même si on ne le savait pas. Finalement, je caricature un peu là, mais enfin, globalement, c'est ça. Et donc, de tout temps l'homme. Et donc, finalement, les rapports sociaux tels qu'ils sont des rapports sociaux naturels, etc. Et donc Marx ne veut dire pas du tout. Les rapports sociaux qu'il y a aujourd'hui, quand j'analyse la marchandise, sont des rapports sociaux historiques, qui ont une date de naissance, qui ont un développement, qui ont une date de fin. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est aussi ce qu'on a dit la dernière fois, c'est-à-dire que c'est ce qui compte, c'est la valeur moyenne. Donc c'est pas la valeur incluse dans ce stylo, c'est la valeur moyenne. Par exemple, la valeur du magnétoscope qui a été produit dans les années 80, je crois qu'on avait pris cet exemple la dernière fois. Bah, aujourd'hui, la valeur du magnétoscope, c'est pas la valeur, c'est pas la quantité de travail qu'il y a dans le magnétoscope. C'est la valeur totale de, la valeur moyenne qu'il faut pour produire la capacité pour un être humain de regarder un film, par exemple. Okay. Donc, ça veut dire que je vais inclure la valeur dans l'histoire, à la fois comme mode de production, c'est-à-dire comme rapport social du travail, mais aussi comme développement des forces productives. C'est-à-dire que ma valeur ne vaut que par rapport à un certain stade des forces productives. Les deux étant liés. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'allais dire ? Dans les sciences sociales, en général, on fait une distinction entre nature et culture. Bon, encore une fois, on commence par classer les choses. Mais après, si on est vraiment marxiste, on comprend que finalement, la culture qui va nier la nature n'est qu'un développement historique de la nature. Bon, si on lit André Leroy-Gourhan, par exemple, l'homme est homme parce qu'il y a une main autonome, la bipédie et un redressement de la face, et un raccourcissement de la face, quoi, hein, ce qui va permettre de développer le cerveau, etc., donc de développer une pensée. Bref, et donc chez Marx c'est pareil, il y a certes d'un côté les rapports sociaux et certes de l'autre côté le développement des forces productives, mais les deux finalement sont imbriqués. Souvent on nous accuse d'être mécanistes parce que en première approximation on dit le développement des forces productives à un certain stade produit certains rapports sociaux, mais il y a aussi le fait que certains rapports sociaux produisent, et parfois les deux entrent en contradiction, et c'est à ce moment-là qu'on entre dans une phase révolutionnaire. Ou très réactionnaire d'ailleurs, hein, puisque finalement il y a ceux qui disent le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui il est dévoyé, mais en fait c'est juste que le capitalisme il entre dans des contradictions telles que bah effectivement il y a des choses qui apparaissent qui n'étaient pas le cas avant. Bon, là je vais un petit peu loin pour critiquer par rapport au classique, mais enfin non, mais ça permet aussi de dire comment après on va analyser le capitalisme, y compris contre les pensées qui sont encore aujourd'hui existantes et réactionnaires, qui en fait vont toujours finir par regretter le capitalisme d'avant, quoi, en fait, hein. Mais ça vient du fait que quand on fait ça, en fait on a une pensée fixiste, c'est-à-dire qu'on pense que le capitalisme il est comme ça, et finalement il a presque de tout temps été, et que quand le capitalisme ne va pas bien, donc autrement dit quand il rentre en crise, hein, pour le dire prosaïquement, en fait c'est parce qu'on l'a dévoyé, quoi, sans jamais comprendre que c'est le développement normal du capitalisme. Donc Marx, il va reprendre, j'allais dire, à son compte certaines prémices de la pensée classique, notamment quand même ce qui fera héritage, et encore aujourd'hui, c'est le fait que les rapports sociaux sont prédéterminés majoritairement par des rapports économiques. Ce qui d'ailleurs, à mon avis, est un des héritages assez révolutionnaires du capitalisme contre lui-même, parce que aujourd'hui, bon, même dans les bistrots, en fait, hein, même, je sais pas, dans la pensée quotidienne, tout le monde, même si c'est d'un point de vue épars, et même si c'est pas précis, bon, globalement, tout le monde dira une phrase du style « toute façon, c'est l'argent qui gouverne le monde », n'est-ce pas ? Bon, c'est une phrase très naïve, hein, n'est-ce pas ? Mais enfin, aujourd'hui, c'est une phrase qui est partagée par à peu près tout le monde, plus personne ne croit en Dieu, plus personne... Et en fait, quand on dit ça, ben, on est en train de dire que, de prime abord, ce qui va expliquer la configuration du monde, ce sont les rapports socio-économiques. Bon, évidemment, ils ne le disent pas aussi précisément, pas avec une conscience de classe, pas, etc. Mais enfin, quand même, c'est le premier pied à étrier, quoi. Et donc, il y a quand même cet héritage. Mais cet héritage va être dépassé et nié.
Et plus précisément, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le malthusianisme ? Parce qu'en fait, c'est un courant qui revient beaucoup dans l'écologisme. Enfin, pas dans l'écologie, dans le sens de nos rapports avec la nature et comment on garde des conditions de vie correctes sur Terre. Mais dans le malthusianisme...